Section 10. Ressources financières. Pour que l'homme ne soit pas frustré des fruits bénis de la charité, notre Rédempteur décida de le faire participer à son œuvre. Par un enchaînement de circonstances qui doivent faire naître les œuvres charitables, Jésus accorde à l'homme le meilleur moyen de cultiver la bienveillance en lui faisant prendre l'habitude d'aider les pauvres et de faire avancer sa cause. Il envoie ceux-ci comme ses représentants. L'indigence de ceux qui sont dans la détresse nous amène à faire usage de nos talents, c'est-à-dire de nos biens et de notre influence, en leur parlant de la vérité dont ils ont le plus urgent besoin. Lorsque nous répondons à ces appels par notre travail et nos actes charitables, nous sommes rendus semblables à celui qui, pour notre salut, s'est fait pauvre. En donnant, nous sommes en bénédiction aux autres et nous entrons en possession des vraies richesses. Chapitre 34. Notre responsabilité individuelle. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartissassent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu au pied des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Acte 4, versets 32 à 35. Un travail individuel confié aux disciples du Christ. Le Christ a confié à ses disciples un travail personnel, qui ne peut être fait par procuration. Apporter aux malades et aux pauvres ce dont ils ont besoin, proclamer l'Évangile à ceux qui se perdent, voilà des tâches qui ne doivent pas être abandonnées à des comités ou à des œuvres de bienfaisance. L'Évangile éveille le sentiment des responsabilités personnelles. Il exige des efforts individuels, le sacrifice de soi-même. Recevoir pour donner. Le Christ nous exhorte par le prophète en ces termes. Partage ton pain avec celui qui a faim, et rassasie l'âme indigente. Si tu vois un homme nu, couvre-le, fais entrer dans ta maison les malheureux. Il nous dit encore « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Mais nos cœurs défaillent et notre foi faiblit lorsque nous voyons la grandeur de la tâche et les moyens dont nous disposons. À l'instar d'André, devant les 5 pains d'orge et les 2 petits poissons, nous nous écrions « Qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Souvent nous hésitons, ne désirant pas donner tout ce que nous avons, dans la crainte de dépenser et de nous ruiner pour les autres. Mais Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Son ordre est une promesse. Il possède la même puissance qu'il déploya pour nourrir la multitude qui se trouvait près de la mer. L'acte par lequel le Christ a pourvu aux nécessités temporelles d'une foule affamée sert d'image à une profonde leçon spirituelle destinée à tous nos ouvriers. Le Sauveur donna aux disciples ce qu'il avait reçu du Père. Les disciples distribuèrent ce don à la foule et les personnes présentes se passèrent les aliments les unes aux autres. Ainsi, ceux qui sont unis au Christ recevront de lui le pain de vie, la nourriture céleste, et la distribueront à d'autres. Les disciples servirent de moyen de communication entre le Christ et le peuple. Il y a là un puissant encouragement pour ceux qui sont aujourd'hui ses disciples. Le Sauveur est le grand centre, la source de toute force. C'est de lui que ses disciples doivent recevoir leurs ressources. Les plus intelligents, les plus spirituels, ne peuvent donner que dans la mesure où ils reçoivent. Ils ne tirent rien d'eux-mêmes pour les besoins de l'âme. Il nous est impossible de rien donner si nous n'avons reçu du Christ, et nous ne sommes à même de recevoir qu'en tant que nous communiquons à d'autres. Aussi longtemps que nous transmettons, nous continuons de recevoir, et plus nous donnons, plus nous recevons. C'est ainsi que nous pouvons constamment croire, nous confier, recevoir et dispenser. L'œuvre qui a pour but d'établir le royaume du Christ fera des progrès, bien qu'elle ne paraisse avancer que lentement, et même si des obstacles insurmontables semblent s'opposer à sa marche, cette œuvre étant celle de Dieu, lui-même fournira les moyens nécessaires. Il enverra du secours. De vrais disciples, sincères, dont les mains remplies seront tendues vers la multitude mourant d'inanition. Dieu n'oublie pas ceux qui s'efforcent, avec amour, de donner la parole de vie aux âmes qui périssent, s'ils tendent leurs mains vers lui pour obtenir la nourriture qui rassasira ses âmes. Le fardeau ne doit pas être placé sur des organisations. Nous sommes en danger, en travaillant pour le Seigneur, de trop compter sur ce que l'homme peut faire avec ses talents et son habileté. Ainsi, nous perdons de vue le grand chef des travaux. Trop souvent, celui qui travaille pour le Christ n'a pas un sentiment assez vif de sa responsabilité personnelle. Il risque de se décharger de son fardeau sur des organisations au lieu de compter sur celui qui est la source de toute puissance. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, c'est une grande erreur de se confier dans la sagesse humaine ou dans le nombre. Le succès de l'œuvre accomplie par le Christ dépend bien moins du nombre ou du talent que de la pureté des intentions et d'une foi vraiment simple, sincère et absolument confiante. Des responsabilités personnelles doivent être assumées, des devoirs personnels accomplis, des efforts personnels réalisés en faveur de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Au lieu de vous décharger de votre responsabilité sur quelqu'un que vous estimez plus richement doué que vous-même, travaillez selon vos capacités. Dieu procurera les moyens. Les moyens dont nous disposons peuvent paraître insignifiants pour les besoins de l'œuvre. Cependant, des ressources abondantes s'offriront à nous si seulement nous voulons marcher en avant par la foi, croyant à la puissance divine qui suffit à tout. Si l'œuvre est de Dieu, il pourvoira lui-même aux moyens nécessaires à son accomplissement. Celui qui compte sur lui, sincèrement et avec simplicité, se trouvera récompensé. Le peu qui sera employé au service du Seigneur du ciel, d'une manière prudente et économe, s'accroîtra au moment même de la distribution. La petite provision de nourriture que le Christ tenait en sa main ne diminua point tant que la multitude affamée ne fut pas rassasiée. Si nous nous dirigeons vers la source de toute puissance, les mains de la foi ouvertes pour recevoir, nous serons soutenus dans notre œuvre, même au milieu des circonstances les plus défavorables, et nous serons à même de donner à d'autres le pain de vie. Risquer quelque chose pour sauver les âmes. Dans cette grande œuvre, on craint de courir le risque de faire des dépenses inutiles. Pourquoi, demandera-t-on, dépenser de l'argent si des âmes ne sont pas sauvées? Pourquoi engager inutilement une partie des moyens dont on dispose? Mais ne vaut-il pas mieux agir que de se croiser les bras? Nul ne sait ce qui réussira, ceci ou cela. Les hommes investissent des moyens et on trouve tout naturel qu'ils fassent de lourdes pertes. Mais dans la cause de Dieu, on est vite effrayé. L'argent dépensé semble une perte sèche si des âmes ne sont pas sauvées immédiatement. N'oublions pas que l'argent que l'on investit si chichement dans la cause de Dieu sera dans peu de temps jeté aux idoles, aux taupes et aux chauves-souris. Lorsque la réalité des scènes éternelles se déploiera devant nous, l'argent n'aura plus aucune valeur. Le Seigneur désire que les hommes risquent tout pour sauver les âmes qui se perdent. Ceux qui ne veulent rien faire, jusqu'à ce que tout soit clair devant eux, n'auront pas l'avantage de voir progresser la vérité. On a besoin aujourd'hui d'ouvriers qui vont de l'avant, dans les ténèbres comme dans la lumière, qui sont vaillants malgré le découragement et les espoirs déçus, d'ouvriers qui œuvrent par la foi, avec larmes et persévérance, semant le long des eaux et se confiant dans le Seigneur. Chaque dollar est nécessaire, la fin de toute chose est proche. Le Seigneur invite les hommes à s'engager dans un service actif en vue de sauver des âmes. Guidés par le Saint-Esprit, ces hommes géreront sagement les fonds qui leur sont confiés, les dépenseront selon la grandeur et l'importance de l'œuvre qui doit être accomplie. Le Seigneur, le Dieu du ciel, recherche des hommes qui abandonneront leurs idoles, qui réprimeront tout désir extravagant, supprimeront tout ce qui n'est que parade et ornement, et pratiqueront l'économie dans l'achat de leurs vêtements et de leur ameublement. Ne dépensez pas un franc en futilité. Votre argent signifie le salut des âmes. Ne le gaspillez pas en bijoux, en or ou en pierres précieuses. Vous pouvez donner des milliers de dollars à la cause de Dieu, et cependant un dollar, un franc mal dépensé, aurait pu être utile. Chaque franc est nécessaire, chaque centime peut être utilisé et investi de telle manière qu'il vous rapportera un trésor impérissable. Mes chers amis, qui aimez Dieu et désirez le servir de tout votre cœur, je voudrais que vous vous posiez cette question, quand vous dépensez de l'argent. Est-ce que je glorifie le Seigneur ou est-ce que je satisfais mes désirs humains? Est-ce que j'emploie cet argent que je tiens dans la main pour mon plaisir, pour faire des cadeaux à mes enfants ou à mes amis, ou est-ce que je suis ouvrier avec le Christ, un modèle pour tous ceux qui s'efforcent de glorifier Dieu? Souvenons-nous de ces paroles. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, Faites tout pour la gloire de Dieu. Chapitre 35. Renforcez l'œuvre de la bienfaisance. Soyez des économes de Dieu. Dieu a confié des biens aux hommes pour qu'ils puissent apprendre à être miséricordieux, donner généreusement pour soulager les souffrances de ces créatures déchues. Avoir des cœurs tendres et compatissants, Dieu désire que les actes de générosité et de bienveillance rendent les cœurs des enfants des hommes tendres et compatissants et les incitent à manifester de l'intérêt et de l'affection pour autrui, selon l'exemple du Maître qui, par amour pour nous, se fit pauvre, afin que nous fussions enrichis. Les cours d'eau de la bienfaisance ne doivent pas être taris. Les petits cours d'eau de la bienfaisance ne doivent pas cesser de se déverser dans le trésor. La providence de Dieu nous précède et dépasse de beaucoup nos libéralités. Un flot constant de dons, l'argent que Dieu a confié aux hommes, doit être employé pour faire du bien à l'humanité, pour soulager la souffrance et la misère. Les hommes croient souvent qu'ils ont accompli des merveilles lorsqu'ils ont fait à certaines institutions ou églises des dons généreux. Dans sa sage providence, Dieu leur présente continuellement ceux qui ont besoin de leur aide. Il faut soigner ceux qui souffrent, vêtir ceux qui sont nus, et en soulager beaucoup d'autres qui passent par des circonstances difficiles et luttent en faisant appel à toutes leurs énergies pour préserver leur famille de la pauvreté. Nous demandons pour les autres. Quand nous disons « Donne-nous notre pain quotidien », nous prions aussi bien pour nos semblables que pour nous-mêmes. Et nous reconnaissons que les biens reçus de Dieu ne sont pas exclusivement pour nous. Dieu nous prête afin que nous puissions venir en aide à ceux qui ont faim. Dans sa bonté, il a pourvu au soulagement des pauvres. Et il dit « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches. Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » L'estampille de Dieu sur chaque dollar. Quel que soit le nombre de vos talents, que vous en ayez un, deux ou cinq, vous ne devez pas dépenser un centime pour favoriser la vanité, l'orgueil ou l'égoïsme. Chaque dollar en votre possession porte l'estampille de Dieu. Aussi longtemps qu'il y aura dans le monde des affamés à nourrir, des pauvres qui sont nus à vêtir, des âmes qui périssent faute du pain de vie et des eaux du salut, tout ce qui ne vous est pas nécessaire, tout surplus de votre avoir, doit être consacré aux pauvres. Les cours d'eau de la bienfaisance tarissent. Plus les personnes dépenseront en vêtements, moins elles auront d'argent pour nourrir l'affamé ou vêtir celui qui est nu. Et les moyens nécessaires à la bienfaisance, qui devraient constamment se renouveler, seront taris. Chaque franc économisé en refusant de se procurer des ornements inutiles peut servir aux nécessiteux ou être placé dans le trésor du Seigneur pour la proclamation de l'Évangile, pour envoyer des missionnaires en pays lointains, pour multiplier les imprimés, afin de faire connaître la lumière aux âmes qui sont dans les ténèbres de l'erreur. Chaque franc dépensé inutilement prive celui qui le fait d'une occasion précieuse d'accomplir le bien.
Dieu nous appelle au renoncement. Dieu demande aux jeunes de renoncer aux ornements inutiles ou à certains articles de vêtements, même s'ils ne coûtent pas cher, et de mettre de côté cet argent pour des œuvres de charité. Il réclame aussi de ceux qui sont plus avancés en âge de réfléchir quand ils envisagent l'achat d'une montre ou d'une chaîne en or, ou encore de quelques meubles coûteux, et de se poser la question « Est-ce bien de dépenser une telle somme pour des choses dont nous pourrions nous passer, ou quand un article moins cher nous suffirait ?» En renonçant à vous-même et en élevant la croix du Christ, qui par amour pour vous s'est fait pauvre, vous pourrez faire beaucoup pour soulager les souffrances des pauvres qui sont parmi vous, et, en imitant ainsi l'exemple de notre Seigneur et Maître, vous recevrez son approbation et sa bénédiction. Ce n'est pas peu de chose que d'être un économe du Seigneur. Que diraient ceux qui font de grandes dépenses pour meubler leur maison s'ils pouvaient lire cette inscription sur leurs meubles et leurs tableaux « Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile ». Dans la salle à manger où se trouve une table bien garnie, le doigt de Dieu a tracé ces mots « Partage ton pain avec celui qui a faim ». Que tous, jeunes et vieux, considèrent que ce n'est pas peu de chose d'être les économes du Seigneur et d'être accusés dans les livres du ciel d'avoir agi d'une manière égoïste. Les nécessiteux, les opprimés, sont laissés dans la pauvreté, alors que l'argent du Seigneur est égoïstement dépensé en choses luxueuses ou extravagantes. Oh,
puissions-nous nous souvenir que Dieu ne fait exception de personne. C'est une grande chose que d'être des économes fidèles et véritables devant un Dieu juste et impartial, qui n'excuse aucune infidélité. Une merveilleuse réforme promise. Lorsque la grâce du Christ est exprimée dans les paroles et dans les actes des croyants, la lumière resplendit pour ceux qui sont dans les ténèbres, car, tandis que les lèvres louent le Seigneur, la main est occupée à faire du bien à ceux qui périssent. Nous lisons dans les Écritures qu'au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descendit sur les disciples réunis, aucun chrétien ne disait que ce qu'il avait lui appartenait en propre. Tout ce qu'il possédait était destiné à faire progresser l'œuvre de Dieu, et des milliers d'âmes se convertissaient en un jour. Lorsque le même esprit agira sur les croyants de notre époque et qu'ils donneront avec la même libéralité, une grande œuvre s'accomplira. Chapitre 36. Fonds spéciaux pour l'œuvre de la bienfaisance. Les chrétiens doivent agir comme des trésoriers de Dieu. Les pauvres sont l'héritage du Seigneur. Le Christ a donné sa vie pour eux. Il veut que ceux qu'il a désignés comme ses économes soient généreux avec l'argent qu'il leur est confié pour soulager la misère et soutenir son œuvre sur la terre. Dieu est riche en ressources. Il a désigné des hommes pour être ses trésoriers dans le monde. Ce qu'il leur a confié, ils doivent l'employer pour son service. Une offrande d'action de grâce pour les pauvres. Dans chacune de nos églises, il devrait y avoir un fonds des pauvres. Que chaque membre offre un sacrifice d'action de grâce une fois par semaine ou une fois par mois, comme il lui conviendra le mieux. Cette offrande exprimera notre gratitude pour la santé, la nourriture et le vêtement qui nous ont été dispensés. Dans la mesure où Dieu nous aura bénis, nous donnerons pour les pauvres, les souffrants et les nécessiteux. Je voudrais spécialement attirer l'attention de mes frères sur ce point. Souvenez-vous des pauvres et renoncez à un peu de votre luxe, même à vos aises. Assistez ceux qui n'ont qu'une maigre nourriture et des habits de misère. En agissant ainsi, vous obligerez Jésus dans la personne de ses saints, car il s'identifie lui-même avec l'humanité souffrante. N'attendez pas pour agir que vos besoins imaginaires soient tous satisfaits, ne donnant que lorsque vous vous y sentez poussé. Donnez avec régularité, soit 10, soit 50 centimes ou 1 franc chaque semaine, c'est-à-dire ce que vous aimeriez voir inscrit à votre compte dans le livre du ciel au dernier jour. Renoncement et économie. Que chacun ait chez lui une boîte où il mettra l'argent auquel il renonce, et lorsqu'il voudra dépenser quelques centimes ou quelques francs pour son plaisir, qu'il se souvienne des nécessiteux et de ceux qui meurent de faim en Afrique et aux Indes, et même devant sa porte. Il y a des pauvres parmi nous. Pratiquez l'économie et présentez chaque cas au Seigneur. Demandez-lui de vous donner l'esprit d'en haut, afin d'être dans toute l'acception du terme des disciples du Christ et de recevoir sa bénédiction. En vous détournant du culte du moi et en essayant de soulager les souffrances de l'humanité, priez pour que Dieu vous donne d'accomplir un véritable travail missionnaire en faveur des âmes. Alors ceux qui viendront assister au culte dans la maison de Dieu verront un peuple vêtu modestement, en harmonie avec la foi et la parole de Dieu. Ce sont les choses extravagantes qui sapent l'amour et la confiance du peuple de Dieu, qui gâtent l'expérience religieuse et développent un égoïsme que le Seigneur ne peut supporter. La seconde dîme. Pour encourager l'assiduité au service, comme pour subvenir aux nécessités des pauvres, Dieu réclama des Israélites une seconde dîme de tous leurs revenus. Voici ce qu'il avait dit de la première dîme. Quant aux enfants de Lévi, voici, je leur donne en héritage toutes les dîmes d'Israël. À l'égard de la deuxième, il avait ordonné ce qui suit. Tu mangeras, en présence de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel aura choisi pour que son nom y soit invoqué, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau, de ton huile, des premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Deux années de suite, les Israélites devaient apporter cette seconde dîme, ou son équivalent en argent, à la résidence du sanctuaire. Après avoir fait à Dieu une offrande d'action de grâce et donné une portion déterminée au sacrificateur, l'offrant devait consommer le reste en agapes religieuses auxquelles il invitait l'étranger, l'orphelin et la veuve. Chaque troisième année, par contre, cette deuxième dîme devait être utilisée pour recevoir sous son toit le lévite et le pauvre. « Tu la donneras, disait la loi, au lévite et à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils aient à manger dans les villes et qu'il soit rassasié. Cette dîme constituait ainsi un fonds destiné à des buts charitables et hospitaliers. La consécration à Dieu d'une dîme du revenu, soit du verger, soit de la moisson, soit du troupeau, soit du produit du travail des mains ou de l'esprit, la consécration d'une seconde dîme en faveur des pauvres ou d'œuvres de bienfaisance, obligeait le peuple à se souvenir que tout ce qui existe appartient à Dieu et que les hommes peuvent être les canaux par lesquels se déversent sur le monde ses bénédictions. Cette éducation était destinée à tuer tout égoïsme et à cultiver d'une manière large et intelligente la noblesse du caractère. Dons et offrandes pour l'œuvre de la bienfaisance. Il faut faire des actes de miséricorde. Il faut venir en aide aux pauvres et à ceux qui souffrent. Des dons et des offrandes doivent être recueillis dans ce but. Accomplissons cette œuvre spécialement dans les nouveaux champs où l'étendard de la vérité n'a pas encore été déployé. Les missionnaires médicaux trouveront un champ où soulager la détresse de ceux qui souffrent de maux physiques. Ils doivent avoir les moyens pour vêtir ceux qui sont nus et nourrir ceux qui ont faim. Leur aide chrétienne sera plus profitable qu'un sermon. Il faut créer un fonds pour que les ouvriers puissent disposer de moyens leur permettant de venir en aide à ceux qui vivent dans la pauvreté et dans la détresse. Ce ministère pratique ouvrira le cœur de ces derniers à la vérité. Des hommes sont désignés pour proclamer la vérité dans de nouveaux endroits. Ils doivent disposer d'un budget pour leur entretien. Il faut qu'ils en aient un autre pour venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux qu'ils rencontreront au cours de leurs travaux. La bienveillance qu'ils manifesteront à l'égard des pauvres donnera du poids à leurs efforts pour proclamer la vérité. Leur empressement à secourir les nécessiteux leur vaudra la gratitude de ceux qui en ont été les bénéficiaires et l'approbation du ciel. Contribution spéciale, non régulière. Au sixième chapitre des Actes, nous voyons de quelle manière, lorsque des hommes furent choisis pour occuper un poste dans l'Église, on présenta la chose au Seigneur par une prière très fervente, afin de recevoir ses directives. Les veuves et les orphelins furent secourus par des contributions de l'Église. Ils devaient être aidés par des dons spéciaux. La dîme était consacrée au Seigneur et devait toujours être destinée au soutien du ministère. Il faut choisir des hommes pour s'occuper des pauvres, réunir des fonds à cet effet, afin que personne parmi les croyants ne manque du nécessaire. Personne ne souffrira si les plans de Dieu sont suivis. D'autres dispositions encore étaient prises pour les pauvres. Les droits de Dieu mis à part, ce qui frappe le plus dans les lois données par Moïse, c'est l'esprit de libéralité, de compassion et d'hospitalité qui caractérise les recommandations relatives aux pauvres. Bien que Dieu ait promis à son peuple d'abondantes bénédictions, il n'a jamais été dans ses intentions que la pauvreté y soit entièrement inconnue. Il avait déclaré qu'il y aurait toujours, dans le pays, des pauvres et des gens qui feraient appel à la sympathie et à la bienfaisance de son peuple. Comme aujourd'hui, on était sujet au malheur et à des pertes matérielles. Mais aussi longtemps qu'Israël fut fidèle au divin précepte, on n'y vit jamais de mendiants, ni de personnes souffrant de la faim. Chapitre 37. La richesse des gentils. Ne pas détourner les fonds de la cause. La dîme est mise à part pour un usage spécial. Elle ne doit pas être considérée comme un fonds des pauvres. Elle est spécialement destinée au soutien de ceux qui proclament le message au monde. Il ne faut pas la détourner de son but. Ne négligeons pas la cause de Dieu pour donner aux pauvres la première place. Un jour, le Christ enseigna sur ce point une leçon très importante à ses disciples. Lorsque Marie oignit la tête de Jésus, Judas plaida en faveur des pauvres et murmura contre ce qu'il considérait comme un gaspillage d'argent. Mais Jésus justifia l'acte de Marie en disant « Partout où cet évangile sera prêché, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Nous comprenons par là qu'il faut honorer le Christ en lui consacrant le meilleur de ce que l'on possède. Si toute notre attention était concentrée sur le soulagement des pauvres, la cause de Dieu en souffrirait. Or, celle-ci doit passer avant toute autre chose. Il faut d'abord satisfaire les exigences de Dieu. Ensuite, les pauvres et les nécessiteux pourront recevoir notre attention. Recevoir des dons de l'extérieur, Dieu ouvrira la voie pour que nous ayons accès à des sources de l'extérieur. Je ne comprends pas pourquoi certains s'opposent à ce que nous recevions des dons de gens qui ne sont pas de notre foi. On ne peut le faire qu'en adoptant des vues extrêmes et en tirant des conclusions qui ne sont pas défendables. Dieu pousse les incroyants à nous aider. Vous me demandez avec déférence s'il est permis de recevoir des dons des gentils ou des païens. votre question n'a rien d'étrange. Mais laissez-moi vous en poser une autre. À qui appartient notre globe? Qui est le véritable propriétaire des maisons et des terres qu'il contient? N'est-ce pas Dieu? N'est-ce pas lui qui a répandu ici-bas des biens à profusion et les a placés entre les mains des hommes pour que ceux qui ont faim puissent être rassasiés, ceux qui sont nus, vêtus, et ceux qui n'ont pas de foyer, logés? Le Seigneur poussera les hommes, même des idolâtres, à donner de leur superflu pour soutenir l'œuvre de Dieu, à condition toutefois que nous leur parlions sagement et que nous leur en fournissions l'occasion. Et ce qu'ils décident de donner, considérons que c'est un privilège de l'accepter. Nous devons entrer en contact avec des hommes haut placés, et, en exerçant la prudence du serpent et la simplicité de la colombe, nous pouvons en obtenir des avantages, car Dieu les poussera à être généreux en faveur de son peuple. Si des personnes qualifiées voulaient présenter aux hommes qui possèdent des moyens et de l'influence les besoins de l'œuvre de Dieu, ces hommes pourraient faire beaucoup pour l'avancement de la cause du Seigneur dans le monde. Nous avons négligé les privilèges et les avantages dont nous aurions pu bénéficier, parce que nous n'avons pas voulu dépendre du monde. Mais, sans sacrifier un seul de nos principes, nous devons profiter de tous les avantages et de toutes les occasions pour faire avancer la cause de Dieu. Demandez à des hommes importants et généreux de nous aider. Il y a un monde à évangéliser, et nous avons eu des scrupules en faisant appel à des riches, membres d'église ou du monde, pour nous seconder dans cette tâche. Nous aimerions que tous ceux qui se disent chrétiens soient avec nous, qu'ils donnent généreusement pour nous aider à faire avancer le règne de Dieu dans le monde. Faisons appel à certains hommes importants et bien disposés. Invitons-les à se dévouer pour sauver ceux qui se perdent. Ne pas refuser de tels dons. Lorsque nous montrerons au monde, aux anges et aux hommes, que la prospérité de la cause de Dieu est notre première préoccupation, Dieu nous bénira. Il opère parfois par des incroyants, et des dons inespérés nous parviennent. Il met au cœur des hommes le désir de nous aider. Il ne faut pas refuser les fonds offerts de cette manière. Quand des incroyants nous donnent de l'argent, il doit être employé par des agents humains pour honorer Dieu.
Le Seigneur ne compte pas sur notre argent. Il n'est pas limité par les hommes. Ses voies sont toujours les meilleures, et tout ce qui peut faire avancer sa cause et son œuvre dans n'importe laquelle de nos institutions doit être employé comme venant de lui. Il ne faut pas refuser les dons des incroyants. L'argent est au Seigneur, et il doit être reçu avec gratitude. Dieu l'envoie par qui il veut. Nous croyons que nous sommes arrivés à la fin des temps. L'éternité est à la porte. Nos moyens sont limités, et grande est l'œuvre qui doit être accomplie. C'est maintenant qu'il faut exercer notre foi. Notre capacité vient de Dieu. Les riches nous donneront des possibilités d'agir. A. Que ceux qui travaillent pour la cause de Dieu parlent des besoins de l'œuvre aux riches de ce monde, qu'ils le fassent judicieusement. Expliquez-leur ce que vous vous efforcez de faire. Sollicitez des dons de leur part. Leur argent est au Seigneur, et ils doivent l'employer pour éclairer le monde. Il y a, enfouis dans la terre, de grands trésors d'or et d'argent. Les hommes ont accumulé des richesses. Allez vers eux, avec un cœur rempli d'amour pour le Christ et l'humanité souffrante, et demandez-leur de vous aider dans l'œuvre que vous vous efforcez de faire pour le Maître. En voyant que vos sentiments révèlent la bienveillance de Dieu, la corde sensible de leur cœur sera touchée. Ils comprendront le bien qu'ils peuvent accomplir en s'occupant de l'œuvre médicale missionnaire. Ils seront amenés à collaborer avec Dieu, à nous donner les moyens nécessaires pour le travail qui doit être entrepris. Poussés par l'esprit à donner. La classe élevée a été étrangement négligée. On trouvera là un grand nombre de personnes qui accepteront la vérité parce que celle-ci est logique et porte l'estampille du noble caractère de l'Évangile. Beaucoup d'hommes capables seront gagnés à la cause et entreront dans l'œuvre du Seigneur. Dieu demande à ceux qui occupent des postes importants, auxquels il a confié des dons précieux, d'employer à son service leurs talents et leurs fortunes. Nos ouvriers doivent faire à ces hommes un clair exposé de notre plan de travail et leur expliquer ce qu'il nous faut pour venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux, ainsi que pour établir l'œuvre sur une base solide. D'aucuns seront impressionnés et poussés par le Saint-Esprit à investir l'argent du Seigneur de façon à faire avancer sa cause. Ils contribueront à créer des centres d'influence dans les grandes villes. L'argent nous sera donné. Nous renouvellerons l'expérience des jours apostoliques si des hommes sont animés par le Saint-Esprit.
le Seigneur retirera sa bénédiction où l'égoïsme prévaut, mais il accordera à son peuple des biens dans le monde entier, s'il veut, généreusement, employer ses capacités à relever l'humanité. Son œuvre sera comme un signe de sa bienveillance, un signe qui gagnera la confiance du monde et procurera des ressources pour l'avancement de l'Évangile. L'argent est au Seigneur. Pourquoi ne pas demander l'assistance des gentils ? Il m'a été montré qu'il y avait dans le monde des hommes et des femmes au cœur compatissant, qui seront touchés quand on leur présentera les besoins de l'humanité souffrante. C'est ainsi que ce sujet m'a été présenté. Notre œuvre doit être militante. L'argent appartient au Seigneur, et si les riches sont abordés de la bonne manière, le Seigneur touchera leur cœur, et il les poussera à nous donner de l'argent. Parlez-en de ci, de là, et faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer des dons. Nous ne devons pas avoir le sentiment que ce n'est pas une bonne chose de demander de l'argent à des hommes du monde, car c'est précisément ce que nous devons faire. Ce plan m'a été présenté comme un moyen de toucher les riches. C'est ainsi que beaucoup d'hommes entendront parler de la vérité pour notre époque et l'accepteront. Comment établir le contact ? Des multitudes de gens qui mènent une vie prospère et qui ne descendent jamais la pente du vice sous ses formes grossières suivent néanmoins le chemin de la perdition à cause de leur amour des richesses. Ces gens-là ont besoin de l'Évangile. Il faut que leurs yeux se détachent de la vanité des choses matérielles pour contempler la valeur des biens impérissables. Ils ont besoin d'apprendre à connaître la joie de donner et le bonheur que l'on éprouve à être ouvrier avec Dieu.
Les personnes appartenant à cette classe sont le plus souvent difficiles à atteindre. Mais le Christ ouvre la voie qui conduit vers elles. Que nos ouvriers les plus consacrés, les plus fidèles, ceux qui sont pleins d'avenir, se mettent à la recherche de ces âmes. Qu'avec la sagesse et le tact que communique l'amour de Dieu, qu'avec toute la délicatesse et la courtoisie qui découlent de la présence seule de Jésus dans le cœur, ils se mettent à l'œuvre pour ceux qui, éblouis par l'éclat des richesses terrestres, ne peuvent apercevoir la gloire des trésors célestes. Que ces ouvriers étudient avec eux la parole de Dieu en s'efforçant de faire pénétrer dans leur cœur les vérités évangéliques. Lisez-leur les textes sacrés. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 30. Jérémie 9, verset 23-24. Éphésiens 1, verset 7. Philippiens 4, verset 19. De tels appels adressés dans l'Esprit du Christ ne sont pas déplacés. Ils feront impression sur un grand nombre de ceux qui se rattachent aux classes élevées de la société. Grâce à des efforts tentés avec sagesse et amour, plus d'un homme sera éveillé au sens de sa responsabilité devant Dieu. Beaucoup répondront à l'appel quand on leur aura clairement démontré que le Seigneur les considère comme ses représentants pour travailler au relèvement de l'humanité souffrante. Et ils feront part aux pauvres de leurs biens et de leurs sympathies. Lorsque leurs esprits seront de la sorte détournés de leurs propres intérêts, beaucoup seront amenés à se donner au Christ et emploieront leurs talents, leur influence et leurs moyens pour travailler à cette œuvre de relèvement avec l'humble missionnaire qui a été l'instrument dont Dieu s'est servi pour les amener à la conversion. Par un bon usage de leurs richesses terrestres, ils s'amasseront un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Ils s'assureront de la sorte un trésor impérissable de sagesse et de justice. Chapitre 38. Vente d'aliments. Les ventes d'églises comprenant de l'alimentation ne sont pas condamnées. Lorsque la foire de Battle Creek eut lieu, nos frères installèrent 3 ou 4 cuisinières dans l'enceinte de l'exposition pour démontrer comment préparer de bons repas sans viande. Nous eûmes la réputation d'avoir dressé la meilleure table de la foire.
Partout où de grands rassemblements se tiennent, c'est notre privilège de faire des plans pour démontrer ce qu'est un aliment sain. Une expérience unique dans l'éducation sanitaire. Le 28 juin 1877, à l'occasion du passage à Battle Creek du Grand Cirque Barnum, les dames de la société Women's Christian Temperance Union décidèrent de frapper un grand coup en faveur de la tempérance et de la réforme sanitaire. Elles organisèrent dans ce but un immense restaurant pour recevoir la foule qui venait de l'extérieur et empêcher les gens de fréquenter les établissements de la ville où ils seraient exposés à la tentation. On dressa la tente géante, employée chaque année pour les camps meetings de la Fédération du Michigan, où pouvaient se réunir 5000 personnes. Sous cette immense maison de toile, on installa 15 ou 20 tables pour recevoir les invités. Notre clinique de Battle Creek plaça au centre une grande table, abondamment garnie de fruits délicieux, de grains et de légumes. Cette table fut la principale attraction et fréquentée plus qu'aucune autre. Bien qu'elle ait eu plus de 10 mètres de long, les clients étaient si nombreux qu'il fallut en ajouter une autre presque aussi longue. Organiser un banquet. J'ai eu hier une conversation de 2 heures avec A et sa femme qui travaillent ici à la clinique. Je crois qu'elle a été profitable. Ils m'ont parlé d'un plan qu'ils ont imaginé, celui d'organiser à l'hôpital un banquet auquel on inviterait les notables de Saint-Héléna, les avocats, les banquiers, les pasteurs. Ils espèrent ainsi faire disparaître l'impression que semblent partager certaines personnes à Saint-Héléna, que cette institution ne soigne que des faibles d'esprit et des gâteux. Frère B, le gérant du San Francisco Vegetarian Café, aurait la charge de préparer ce banquet. Je n'ai pas vu d'objection à ce plan. Lorsque la lumière sur la réforme sanitaire nous fut donnée, à l'occasion des jours fériés, nous faisions appel, en certains endroits fréquentés, à des cuisinières afin qu'elles fassent des petits pains légers et des galettes. Et je crois que nos efforts furent couronnés de succès, bien que naturellement, nous ne possédions pas, à ce moment-là, les aliments sains que nous avons maintenant. À cette époque, nous commencions tout juste à apprendre comment on pouvait vivre sans manger de la viande. Il nous arriva parfois de faire un grand dîner et nous prenions bien soin que tout ce que nous avions préparé fût appétissant et bien servi. À la saison des fruits, nous avions des myrtilles, des framboises et des fraises. Nous faisions de la table une leçon de choses en montrant aux personnes présentes que notre régime, tout en étant en accord avec les principes de la réforme sanitaire, était loin d'être pauvre. Parfois, on donnait une courte causerie sur la tempérance en rapport avec ce repas et les gens se familiarisaient avec nos principes. Autant que nous l'avons su, tout le monde était satisfait et éclairé. Nous étions toujours disposés à expliquer pourquoi il est nécessaire de se procurer de bons aliments et de les préparer simplement, tout en les rendant appétissants et agréables au goût. Danger de faire du bénéfice financier de certaines ventes l'objectif principal. Il m'a été aussi montré que dans les villes où la possibilité existe, on imite ce qu'on a fait à la foire de Battle Creek. En harmonie avec cette révélation, des restaurants végétariens ont été ouverts. Mais les employés de nos restaurants courent le risque de devenir si imbus de l'esprit commercial qu'ils ne communiquent pas la lumière aux gens qui en ont besoin. Nos restaurants nous mettent en contact avec beaucoup de gens, mais si nous avons l'esprit préoccupé par le profit financier, nous n'accomplirons pas le plan de Dieu, qui aimerait que nous profitions de toutes les occasions pour présenter la vérité qui doit sauver hommes et femmes de la mort éternelle. Le Christ savait toucher les gens à leurs fêtes et à leurs repas. Le Christ est notre maître. Avant de quitter ses disciples, il leur a donné des instructions précises sur l'œuvre qui les attendait. Aussitôt qu'il put parler, le Christ usa du don de la parole dans le cercle familial et parmi ses amis et ses connaissances d'une manière parfaite. Jamais une parole impure n'effleura ses lèvres. Jamais il ne commit une mauvaise action, car il était le Fils de Dieu. Bien qu'il possédât la nature humaine, il était sans péché. Lorsque, au début de son ministère, il était prié d'assister à un repas ou à une fête par un pharisien ou un publicain, il acceptait l'invitation. Il était accusé par les chefs religieux de manger avec les publicains et d'être comme eux. Mais en de telles occasions, le Christ contrôlait les conversations et donnait de précieuses leçons. Ceux qui étaient présents l'écoutaient, car n'avait-il pas guéri leurs malades, réconforté leurs affligés, pris leurs enfants dans ses bras et ne les avait-il pas bénis? Les publicains et les pécheurs étaient attirés vers lui, et quand il ouvrait la bouche pour parler, il captivait leur attention.
le Christ enseignait à ses disciples comment ils devaient se conduire avec ceux qui étaient religieux et ceux qui ne l'étaient pas. Par son exemple, il leur apprenait que, lorsqu'ils se trouvaient dans un rassemblement, ils n'avaient pas à se soucier de ce qu'ils auraient à dire. Sa conversation différait radicalement de ce qu'ils avaient entendu au cours des fêtes passées. Chaque mot qu'il prononçait était une odeur de vie donnant la vie à ses auditeurs, et il l'écoutait avec une attention soutenue, désirant en entendre davantage. Le respect manifesté à l'égard du Christ pendant les fêtes auxquelles il assistait contrastait avec la façon dont les scribes et les pharisiens étaient traités. Le Christ donnait des leçons appropriées aux besoins de ses auditeurs. C'est à une fête qu'il dit la parabole du grand souper, par laquelle il montre de quelle manière l'invitation du roi fut considérée. Le grand docteur parlait comme ayant autorité. Il instruisait ses disciples sur les devoirs et les règles de la véritable vie sociale, qui sont les mêmes que les lois du royaume de Dieu. Le Christ parlait avec une grande clarté et une grande simplicité, et non d'une manière vague. Ses paroles étaient « comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent ». Occasion offerte au cours de grandes réunions, il m'a été montré qu'à mesure que nous approchons de la fin, il y aura de grands rassemblements dans nos villes, comme il y en eut un récemment à Saint-Louis, et qu'il faudra se préparer à présenter la vérité dans de telles occasions. Le Christ agissait ainsi lorsqu'il était ici-bas. Quel que soit le lieu et les circonstances d'un rassemblement, sa voix se faisait entendre, claire et distincte, pour délivrer son message. Il en résulta qu'après sa crucifixion et son ascension, des milliers se convertirent en un jour. La semence jetée par le Christ pénétrait profondément dans les cœurs et germait. Lorsque les disciples reçurent le don du Saint-Esprit, la moisson était prête. À chacune de ces grandes réunions, quelques-uns de nos pasteurs devraient être présents et agir avec sagesse afin de trouver des oreilles attentives et répandre la lumière de la vérité devant le plus grand nombre d'auditeurs possible. Nous devrions profiter de toutes les occasions comme celle qui s'est présentée à la foire de Saint-Louis. Dans chacun de ces rassemblements, il doit se trouver des hommes que Dieu peut employer. Des brochures contenant la lumière de la vérité présente seront répandues parmi le peuple comme les feuilles en automne. Pour de nombreux assistants, ces brochures seront comme les feuilles de l'arbre de vie, qui servent à la guérison des nations. Chapitre 39. Méthode défendue pour se procurer de l'argent. Ne pas utiliser l'appétit immodéré et l'amour des plaisirs pour se procurer des fonds. De nos jours, des églises encouragent les festivités, la gloutonnerie et la dissipation, en organisant des banquets, des ventes, des danses ou autre chose semblable dans le but de réunir de l'argent pour leur trésor. C'est là une méthode inventée par des esprits charnels pour trouver des fonds sans faire de sacrifice. De tels procédés impressionnent la jeunesse, qui croit que les loteries, les ventes et les jeux sont sanctionnés par l'Église. Il y a là, pense-t-elle, quelque chose de fascinant pour obtenir de l'argent. Nous devons nous élever résolument contre ces corruptions religieuses, cette dissipation, ces festivités, qui ont une influence démoralisante sur les jeunes et sur les vieux. Nous ne pouvons pas jeter sur leurs promoteurs le manteau de la sainteté, parce que cet argent est destiné à des activités d'église. De telles offrandes portent la malédiction divine, elles sont le prix des âmes. Des pasteurs peuvent justifier les festivités, les bals, les loteries, les ventes, pour obtenir de l'argent pour l'Église, mais ne participons en aucune façon à tout cela, car si nous le faisions, nous attirerions le déplaisir de Dieu. Ne profitons pas de l'appétit immodéré ou des amusements mondains pour demander à de soi-disant chrétiens l'argent que Dieu leur a confié. S'ils ne donnent pas volontairement, pour l'amour du Christ, leurs offrandes ne peuvent être agréées de Dieu. L'Église est profanée. À quels moyens un grand nombre d'églises ont-elles recours lorsqu'il s'agit de trouver de l'argent pour des œuvres charitables? À des ventes, des banquets, des loteries et autres expédients de ce genre. Souvent, les lieux consacrés au service divin sont profanés par des festins où l'on boit, vend et achète, où l'on se divertit. C'est ainsi que la jeunesse perd le respect pour la maison de Dieu et pour le culte. La maîtrise de soi-même diminue, l'égoïsme, l'appétit, l'amour de la parure sont excités et fortifiés par l'exercice. Comment les incroyants sont-ils impressionnés? Quelle impression les incroyants ressentent-ils? La bannière de la parole de Dieu est traînée dans la poussière. le mépris est jeté sur Dieu et sur le nom de chrétien. Les principes les plus corrompus sont renforcés par un moyen antiscripturaire de trouver de l'argent. Et c'est justement ce que Satan recherche. Les hommes répètent le péché de Nadab et Abihu. Ils font usage du feu commun au lieu du feu sacré pour le service de Dieu. Le Seigneur n'accepte pas de telles offrandes. Toutes ces méthodes visant à apporter de l'argent dans son trésor sont pour lui en abomination. C'est une fausse piété qui dicte de telles inventions. Oh, quel aveuglement! Quelle folie pour des gens qui se disent chrétiens! Les membres d'Église se conduisent comme les antédiluviens, lorsque toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tous ceux qui craignent Dieu auront en horreur ces manières d'agir qui représentent mal la religion de Jésus-Christ. Donner pour des considérations égoïstes. Dans ces réunions de gens qui se disent chrétiens, Satan jette un vêtement religieux sur des plaisirs illusoires et impurs pour donner l'apparence de la piété, et les consciences d'un grand nombre sont tranquillisées parce qu'on a trouvé de l'argent pour faire face aux dépenses de l'Église. Les hommes refusent de donner pour l'amour de Dieu, mais pour l'amour des plaisirs et la satisfaction de l'appétit, pour des considérations égoïstes, ils sont prêts à être généreux. C'est parce que les gens n'ont pas compris les leçons du Christ sur la bienfaisance, l'exemple qu'il nous a donné et la grâce de Dieu agissant dans les cœurs pour les amener à le glorifier avec leurs moyens, qu'ils ont recours à de tels procédés pour soutenir l'Église. Dans ces scènes d'amusement et de gloutonnerie, on se fait un mal considérable physiquement, mentalement et moralement. Seul le jour du règlement des comptes révélera l'influence de ces démonstrations de gaieté et de folie. Il est déplorable que des considérations sacrées et éternelles n'aient pas le pouvoir d'ouvrir les cœurs des soi-disant chrétiens afin de les amener à faire des dons volontaires pour le soutien de l'Évangile, au lieu des festins et des divertissements. C'est une triste réalité que ces stimulants réussissent, alors que les choses éternelles n'arrivent pas à influencer les cœurs pour les engager dans l'œuvre de la bienfaisance. Le plan de Moïse dans le désert pour trouver de l'argent eut un plein succès. Là, il n'y eut pas de contraintes. Moïse ne fit pas un grand banquet. Il n'invita pas le peuple à des scènes de gaieté, à des danses ou à d'autres plaisirs. Il n'organisa pas non plus de loterie ou autres expédients profanes pour obtenir les moyens de construire le tabernacle. Dieu recommanda à Moïse d'inviter les enfants d'Israël à apporter des offrandes. L'homme de Dieu devait accepter les dons de tous ceux qui les faisaient de bon cœur. Ces offrandes volontaires furent si abondantes que Moïse dut proclamer qu'il y en avait assez. On devait cesser les présents car on avait donné plus qu'il ne fallait. Les tentations de Satan réussissent avec les soi-disant disciples du Christ quand il s'agit de plaisir et d'appétit. Se déguisant en ange de lumière, l'ennemi des âmes cite les Écritures pour justifier ses tentations. Ces gens qui se disent chrétiens sont faibles moralement. Ils sont fascinés par les moyens de corruption que Satan présente devant eux, et celui-ci remporte la victoire. Comment le Seigneur considère-t-il les églises soutenues par de tels procédés? Le Christ ne saurait accepter ces offrandes, parce qu'elles ne procèdent pas de leur amour et de leur piété, mais de leur idolâtrie du moi. Ce que beaucoup ne feront pas pour l'amour du Christ, ils le feront par amour des friandises qui flattent l'appétit et par amour des plaisirs mondains, car ces choses plaisent au cœur charnel. Le mobile du donateur est enregistré. Il m'a été montré que les anges tiennent un registre fidèle de chaque offrande consacrée au Seigneur et placée dans le trésor, comme aussi du résultat final des dons ainsi obtenus. L'œil de Dieu voit chaque centime destiné à sa cause et la manière dont il a été offert. Le mobile du donateur est aussi enregistré. Ceux qui donnent volontairement, qui rendent au Seigneur ce qui lui appartient, comme ils le doivent, seront récompensés selon leurs œuvres.